RFI.
RFI, 6h30 à Paris, 5h30 en temps universel. Et tout de suite le journal. Bonjour Édouard Dupénoit.
Bonjour. Deux explosions à Bukavu, 11 morts au moins dans cette capitale du Sud Kivu dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et cela après un meeting de Corneille Nanga, le coordonnateur de l'AFC M23. Le mouvement politico-militaire et Kinshasa se rejettent mutuellement la responsabilité. La RDC, où les humanitaires ont besoin cette année de 2,5 milliards de dollars pour répondre décemment aux multiples crises qui frappent les populations, annonce hier à Kinshasa, annonce empreinte de doute alors que les États-Unis se retirent avec fracas de ses financements internationaux. Khalifa Haftar à l'Élysée, rencontre avec le président français Emmanuel Macron, analyse du sous-texte de cet entretien dans quelques minutes. La COP16, enfin, qui se raccroche aux branches après la déconfiture de Cali. Les négociateurs de cette COP biodiversité trouvent finalement un accord cette nuit à Rome. Au moins 11 personnes sont donc mortes hier à Bukavu, une soixantaine d'autres blessées après deux explosions dans cette capitale provinciale du Sud Kivu. Explosion survenue juste à la fin d'un meeting que donnait Corneille Nanga, le coordonnateur de l'AFC M23 soutenu par le Rwanda. Meeting sur la place de l'indépendance. Le mouvement politico-militaire dénonce la responsabilité de Kinshasa, tandis que le président Félix Tshisekedi évoque un acte terroriste odieux. Paul Lorgery.
Manches retroussées, des traces de sang sur les mains visibles jusqu'au col de sa chemise blanche, Albert est l'un des jeunes qui a secouru les victimes des explosions.
J'ai entendu deux explosions. Ensuite, je me suis rendu compte qu'il y avait une trentaine de personnes grièvement blessées. Certains avaient les jambes cassées, d'autres des blessures à la tête. J'ai aidé à porter les corps sans vie pour les acheminer à la morgue et les blessés à l'hôpital. J'ai compté au moins 10 morts.
La première explosion s'est produite à environ 6 mètres de la tribune où se tenait Corneille Nanga, qui venait de quitter les lieux 3 minutes auparavant. Ce n'est que 30 secondes plus tard qu'une deuxième détonation a retenti. Présent sur les lieux, Nicolas l'a échappé belle lors de la débandade. Alors qu'il prenait la fuite, lui aussi aurait pu compter parmi les victimes.
J'ai vu une grenade parce que nous étions en train de fuir. Nous étions sécurisés par le militaire de l'AFM23 qui nous a sécurisés. Quand nous étions en train d'aller vers Feu Rouge, on a vu, et d'ailleurs ce n'est pas nous, ce sont les militaires qui ont vu ça, dans le caniveau. Une troisième qui n'a pas explosé. Ils ont commencé à déminer puis nous ont dit de partir.
Selon l'AFCM23, deux suspects ont été appréhendés. Sans donner de bilan, les responsables condamnent l'attaque du meeting et accusent Kinshasa. Abba Mungu, qui a été blessé au pied gauche, tente de comprendre qui pourrait être derrière tout cela.
Je pense que c'est une jalousie politique parce que le meeting était déjà vers sa fin et il y en a certaines personnes qui ne croyaient pas que la masse pourrait être là.
Depuis mercredi, des messages circulaient sur les réseaux sociaux appelant les gens à ne pas participer au meeting.
Plus généralement, à propos de cette guerre dans l'Est de la RDC, les médiateurs religieux, en l'occurrence les responsables des églises catholiques et évangéliques, se sont rendus hier à Brazzaville. Ils y ont rencontré le président Denis Sassou Nguesso en sollicitant de sa part son implication plus profonde dans la résolution de la crise entre la RDC et le Rwanda. C'est aussi dans ce contexte que, à Kinshasa, les représentants d'organisations humanitaires et les bailleurs de fonds ont exposé publiquement hier, leur plan de réponse pour cette année 2025. Les ONG estiment qu'elles auront besoin de 2,5 milliards de dollars pour faire face aux multiples besoins des populations congolaises. Des besoins qui augmentent alors que les perspectives sont bien sombres depuis le désengagement massif des États-Unis de ce volet international. Correspondance Coralie Pierret.
Les discours se succèdent à la tribune et tous s'accordent sur la gravité de la crise. Les nouvelles réalités, la prise de Goma et de Bukavu par l'AFC M23, un groupe soutenu par le Rwanda, complexifie le travail des humanitaires dans une zone déjà extrêmement fragile. Luc Lamprière est le directeur du Forum des ONG internationales en RDC.
On est confronté à une multitude de crises au même moment. Les humanitaires sont face à des dilemmes permanents et impossibles. Comment soigner des blessés quand les hôpitaux manquent de tout ? Comment prévenir une catastrophe sanitaire alors que le choléra, la rougeole et le mpox continuent de progresser ? Comment protéger les survivantes de violences basées sur le genre, les personnes déplacées qui vivent dans la peur ?
Comment également répondre à ces besoins quand les financements manquent ? Les annonces de coupes budgétaires pleuvent depuis le gel des aides américaines. Joachim Waverka est l'ambassadeur de Suède en RDC et représentant des bailleurs de fonds.
Je pense que nous nous trouvons dans une situation très très grave. En même temps, c'est un conflit assez oublié quand même. Bien évidemment, avec plus des attentions sur ces questions, ça pourrait prendre une opportunité pour des bailleurs de fonds d'augmenter leur engagement.
Peu probable que les humanitaires arrivent à mobiliser cette année les 2,5 milliards de dollars demandés. L'année dernière, 1,3 milliard de dollars avaient été récoltés, un financement record grâce notamment à la contribution des États-Unis qui avait couvert 70% du plan de réponse humanitaire. Coralie Pierret, Kinshasa, RFI.
À ce plan que les ONG avaient aussi commencé à élaborer avant le début de l'offensive du M23 soutenue par le Rwanda, comment adapter la réponse à une crise qui évolue sans cesse? On interrogeait hier soir Bruno Lemarquis, coordinateur humanitaire des Nations Unies. Vous retrouvez son éclairage sur RFI.fr.
Afrique Matin sur RFI.
Une rencontre discrète hier à l'Élysée entre Emmanuel Macron et Khalifa Haftar. Discrète côté français en tout cas, puisque ce sont notamment les réseaux sociaux du maréchal de l'Est libyen qui ont permis d'apprendre la tenue de cet entretien sur lequel la présidence française ne dit pas un mot. Le communiqué de l'armée fidèle au général Haftar reste tout de même assez générique. Les deux hommes auraient discuté du processus politique en Libye, de l'appui à la mission de l'ONU sur place ou encore des pistes de coopération qui servent les intérêts communs, fermez les guillemets. Ouda Ibrahim se plonge dans le sous-texte.
Après une période de refroidissement, l'heure est au réchauffement entre Paris et Khalifa Haftar. Les relations s'étaient dégradées après le déploiement des forces russes et des groupes Wagner en Libye. Un réchauffement qui intervient au moment où la communauté internationale à travers l'ONU cherche à instaurer un nouveau gouvernement unifié en Libye. Selon le politologue Hassni Abidi, le maréchal Haftar a surtout apporté des garanties à la France et aux Européens.
Cette visite intervient à la demande de maréchal Haftar qui veut absolument consolider son rôle dans tout processus politique à venir. Deuxième élément, c'est que Haftar veut montrer qu'il n'était pas l'homme de la Russie, surtout après une visite en Biélorussie, et que, évidemment, les positions militaires que la Russie veut prendre aujourd'hui en Libye après son départ de la Syrie ne se fera pas au détriment de la sécurité des Européens et notamment de la France. C'est un élément central aujourd'hui.
Les discussions entre les deux parties ont porté par ailleurs sur des questions stratégiques et sur la possibilité d'une présence française dans la base militaire Louig à l'extrême sud de la Libye à la frontière avec le Niger. C'est ce qu'affirme le média libyen Fawassel qui cite une source militaire proche de Khalifa Haftar.
Ouda Ibrahim à 6h37 à Paris, même heure à Rome. Les délégations de plus de 150 pays sont allées chercher au forceps dans la capitale italienne un compromis qu'elles n'avaient pas réussi à trouver en Colombie. Les trois jours de prolongation de la 16e conférence des parties sur la biodiversité, la COP16, arrache finalement un texte consensuel après l'échec cuisant de Cali au mois de novembre. Chacun y est allé de ses concessions. Mais finalement, on apprend que d'ici 5 ans, une feuille de route sera mise en place pour mobiliser plus de fonds en faveur de cette biodiversité. On apprend aussi que dès la prochaine édition de cette COP en Arménie, les efforts de chaque pays dans le domaine seront évalués collectivement. Envoyé spécial Lucille Gimbert.
Les pays africains voulaient obtenir dès aujourd'hui la création d'un nouveau fonds dédié à la biodiversité et sous l'autorité de la COP. Ils ont dû céder en partie, tout comme ont dû céder les pays développés qui, eux, ne voulaient pas en entendre parler. La solution médiane adoptée, un processus de travail de 5 ans va évaluer les instruments financiers existants et établir les améliorations souhaitables pour que les pays membres de la Convention sur la diversité biologique décident d'ici 2030 si le plus efficace est un nouveau fonds ou bien l'amélioration d'un ancien. Ousseynou Kassé, président du groupe Afrique.
Nous avons montré ici que c'est le multilatéralisme qui a triomphé. Les différentes parties ont fait beaucoup de concessions pour aller vers un compromis. Nous aurons un mécanisme qui sera dédié exclusivement et bien à la biodiversité, ce qui n'a jamais existé depuis la mise en place de cette convention sur la biodiversité. Et pour nous, c'est un motif de satisfaction. C'est une étape, mais il reste aussi d'autres étapes pour aller vers la mobilisation de plus de ressources pour lutter contre la perte de biodiversité.
Alors que l'aide au développement stagne, voire se réduit. Les pays comptent aller chercher des fonds aussi auprès du secteur privé pour tenter d'atteindre l'objectif des 200 milliards de dollars mobilisés chaque année pour la sauvegarde de la nature. Lucille Gimbert, Rome, RFI.
Dans le nord du Niger, la société civile s'inquiète de l'immobilisme sur le site de la Cominac à Arlit. C'est une ancienne mine souterraine d'uranium, l'une des plus grandes du monde. Ça fait bientôt 4 ans qu'elle a fermé ses portes. Orano, le Français qui exploitait le gisement, avait commencé des travaux travaux de réhabilitation gigantesques, 125 milliards de francs, quasi 200 millions d'euros pour que d'ici 2031, le site soit rendu à son état quasi initial. Mais le bras de fer engagé ces derniers mois par les autorités de transition vis-à-vis du groupe semble avoir grippé cette machine. Orano confirme avoir demandé la suspension temporaire, Charlotte Cosset, de ses activités de réaménagement.
En cause, je cite, les ingérences illégitimes et l'absence de dialogue avec les représentants de l'État du Niger qui depuis des mois paralysent la prise de décision essentielle au bon fonctionnement de Cominac. Dans son communiqué, la société civile d'Arlit s'inquiète, elle, du risque de contamination des nappes phréatiques. Orano affirme maintenir sa volonté de mener à terme les travaux de réaménagement de la mine, mais pour cela, un retour à un mode de fonctionnement normal de la société Cominac est nécessaire, estime l'entreprise. Elle détaille par ailleurs les avancées sur le terrain, 100% des travaux miniers souterrains réalisés, 90% des installations de surface déconstruites, 6 bassins de récupération des boues et eaux industrielles sur 12 traités, 2 autres recouverts, plusieurs milliards de francs CFA investis dans des programmes socio-économiques. Mais la société civile d'Arlit s'interroge sur les financements apportés par Orano. Pour elle, ces engagements ne sont pas tenus, les sommes déboursées proviendraient uniquement des autres actionnaires. L'entreprise française n'a pas souhaité faire de commentaires à ce sujet.
Charlotte Cosset, à compter de ce soir, enfin, la très grande majorité des fidèles musulmans à travers le monde commenceront à observer le mois de Ramadan. 4 semaines de jeûne, de prière et d'introspection, on en parle largement ce matin sur nos antennes, de Moroni à Conakry en passant par Rabat, le roi du Maroc, qui par ailleurs a émis une recommandation notable cette semaine. Elle concerne la fête du sacrifice prévue au mois de juin. Mohamed VI souhaite que cette année, justement, le sacrifice n'ait pas lieu. Un Aïd el-Kébir sans tuer de moutons, justement pour préserver à la fois le cheptel et le porte-monnaie des ménages. Qu'en pense-t-on dans les rues de Casablanca? Réponse avec Mathias Reynal.
Saïd est bouché au marché central de Casablanca. L'annonce du roi a été un soulagement pour lui.
C'est la meilleure des choses à faire avec ces prix très élevés. Le mouton, quand il se vend à 800, 950 euros, c'est pas la peine. C'est mieux de ne pas faire le sacrifice pour préserver les gens modestes.
Selon Saïd, l'annulation du sacrifice devrait profiter au cheptel national et pourrait engendrer une baisse des prix, bénéfique à la fois aux clients et à sa profession.
Plus la viande est chère, moins on fait de bénéfices. Après, le jour de la fête, tu le passes avec ta famille. C'est un jour de célébration, même sans mouton.
Hilde, la quarantaine, est une cliente. Elle n'avait pas prévu, de toute façon, d'acheter un mouton cette année.
Ça fait 2 ans que je ne fais pas le sacrifice. Je n'en ressens pas le besoin. La viande, le poisson, tout est devenu cher.
Pour l'Aïd el-Kbir, Hind va donc prendre un peu de viande chez le boucher et préparer un plat pour sa famille. C'est comme ça que beaucoup de Marocains s'apprêtent à célébrer la fête la plus importante du calendrier musulman. Mathias Reynal, Casablanca, RFI.
À Casablanca, Julien Coquelreux, il est 5h43.